Donc, bienvenue dans cet atelier qui est un peu consacré à tout ce qui se passe sur les nouvelles fabrications numériques, mais aussi une nouvelle manière de travailler, de produire des choses, et aussi un peu de repenser tout ce monde de la fabrication, de la production, de l'apprentissage pair à pair, du partage des savoirs et des connaissances, et puis un autre rapport au travail. Et on avait fait il y a 2 ans un premier atelier sur ces tiers-lieux qu'on appelle des Fab Labs. Alors les tiers-lieux, c'est des choses qui sont ni tout à fait du travail, ni tout à fait du hors-travail. C'est des lieux un peu qu'on pourrait... C'est des lieux de vie où il se passe plein de choses, mais bon, Michel Lallemand nous présentera beaucoup mieux que je le fais. Il y a 2 ans, on avait reçu Camille Bosquet qui fait une thèse sur les Fab Labs en France. Là, cette année, on reçoit Michel Lallemand qui est enseignant et chercheur au CNAM, qui a travaillé beaucoup sur justement les hackerspace, les Fab Labs et toute constellation autour de l'idée du faire et de faire soi-même, de faire avec les autres, et que c'est le faire qui détermine un peu la manière de se positionner à l'intérieur d'une communauté. On juge les gens à ce qu'ils sont capables de faire et pas nécessairement de dire. Et il a fait un livre à la fois qui analyse tout ça, il va nous en parler, et avec un focal sur un des Fab Labs qui en fait est un hackerspace. Qui est assez particulier aux États-Unis, qui s'appelle à San Francisco, qui s'appelle Nose Bridge. Voilà, sans plus attendre, je vous donne la parole.
Merci. Tu me dis juste combien de temps je peux parler?
Le principe, généralement, c'est à peu près un exposé de 40 minutes. Ouais. Alors, bon, parfois la salle veut réagir.
Oui, alors là, vraiment.
Après, on est dans
la discussion.
Le débat, la question-réponse, etc.
Ok. Merci pour l'invitation. Je propose qu'il y ait une interaction, y compris au cours de la présentation, donc n'hésitez pas à intervenir. Vraiment, je pense que le cadre s'y prête. Alors, d'abord, d'emblée, je dois dire que je suis sociologue du travail, comme Yann l'a dit à l'instant. Et donc, pendant très longtemps, comme mes collègues, je fais un constat sur l'état général du travail aujourd'hui, qu'on peut caractériser de différentes manières, que là j'ai résumé en différents points, montée en puissance d'un travail qui engage une relation avec quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle le travail sur autrui. 2 salariés sur 3 aujourd'hui dans leur travail quotidien ont un rapport direct avec un client, avec des personnes, avec un malade, enfin tout ce que vous voulez, avec un prestataire de service. Donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une nouvelle pathologie du travail qui sont apparues, vous le savez très bien. Pour le dire vite, ces pathologies sont bien connues, burn-out, stress, suicide dans les cas extrêmes, etc., qui sont liées, mais ça c'est pas tant le propos que d'aujourd'hui, mais aux transformations de la concurrence, à la globalisation et tout ça. Le management taylorien a fait son temps. On a inventé d'autres manières de gérer les hommes et les femmes dans l'entreprise, mais parfois pour le pire. Et puis dernière chose, je dirais que il y a l'idée, et puis le dernier bouquin d'Nathalie de ce point de vue là est quand même, les bras m'en coupent à chaque fois que je l'entends, c'est grosso modo démerdez-vous vous-même, quoi, donc il y a une espèce de nouvelle idéologie sauvez-vous par vous-même qui est dans l'air du temps et qui est pourtant c'est un type intelligent, mais là je crois que c'est pas forcément le meilleur bouquin qu'il ait écrit dans sa vie. Donc par rapport à ce paysage là ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de repenser à partir de réalités concrètes, quelles sont les conditions de ce qu'on pourrait appeler un travail émancipé. Et quand je dis travail émancipé, j'essaye de le définir de façon assez précise, en disant c'est un travail qui soit autonome. Et quand je dis autonome, c'est que les gens puissent gagner en marge de manœuvre, en capacité à décider par eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire quand ils bossent. Et deuxième dimension du travail autonome, c'est qu'il y a une déconnexion par rapport aux exigences du marché. C'est-à-dire que tout travail ne soit pas forcément immédiatement connecté avec des impératifs d'actionnaires, de boîtes, etc. Oui, c'est ça que j'ai en tête lorsque je parle de travail autonome. Donc c'est en fait l'autonomie au et du travail que j'ai en tête. Alors pour être tout à fait précis, je m'inscris dans une filiation intellectuelle qui est pluriel, mais j'essaye de travailler ce qu'on appelle des utopies concrètes. Et cette idée d'utopie concrète a été notamment mise en avant par une tradition marxiste hétérodoxe, pour le dire vite, dont le plus connu, c'est un type qui s'appelle Ernst Bloch, qui a inventé la notion d'utopie concrète, hein, dans un ouvrage qui s'appelle Le principe espérance. Vous voyez, l'idée, c'est de donner à la notion d'utopie une chair réelle, hein, et ce n'est pas simplement des commentaires de texte où on va imaginer dans l'abstrait une société qui n'existe pas. Alors, je l'avais déjà fait, pour tout vous dire, à propos d'une expérience au XIXe siècle, que vous connaissez peut-être, d'un type qui s'était inspiré de Fourier et qui a monté le familistère de Guise, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et donc j'avais travaillé dessus, j'ai fait un gros bouquin de 600 pages sur l'expérience de Guise, comment on peut appliquer très concrètement les principes fourieristes au travail. Et puis après ça, je me suis dit, ben, je voudrais travailler dans le contemporain, regarder aujourd'hui qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui permet de penser à la marge du capitalisme dominant des expériences originales d'utopie concrète. Et très vite, j'ai rencontré donc le mouvement hacker, et notamment les hackerspace, donc le mouvement maker, hacker, on reviendra sur cette terminologie. Et j'ai passé un an donc aux États-Unis à aller à la rencontre de ces communautés nouvelles, que sont les communautés de hackers, de hackerspace. Je vais utiliser plutôt le langage hackerspace, qui me plaît davantage que le vocable Fab Lab, mais bon, ceci dit, on y reviendra, il y a des enjeux. Alors, pour vous présenter tout ça, j'ai quatre séries de remarques. Hein. D'abord, je vais vous présenter ce que c'est le monde des hackerspace et des Fab Labs, qu'on soit bien d'accord sur l'objet auquel on s'intéresse. Après, très rapidement, dans le cas américain, je voudrais mettre l'accent sur un double héritage qui est important à avoir en tête, parce que ça permet de comprendre ce qu'on pourrait appeler des ambiguïtés parfois, dans ce mouvement hacker Fab Lab, puisque la notion de liberté est centrale dans toute la tradition hacker, et ça peut basculer aussi bien du côté, au fond, d'une tradition anarchiste, mais du côté libertarien, pour donner les pires chantres du capitalisme. Voilà, hein, donc c'est important à avoir en tête. Troisième chose, je raconterai très concrètement comment fonctionne une communauté comme Noisebridge. Et donc ça, c'est plutôt un regard anthropologique, si j'ose dire, hein, au quotidien, qui sont les gens, qu'est-ce qu'ils font, etc. quoi. Et je finirai sur, est-ce qu'on a là vraiment des leviers d'émancipation pour le travail aujourd'hui. Alors, je démarre déjà, première chose, en vous disant, qu'on soit bien d'accord, c'est quoi un hackerspace, hein. Un hackerspace, alors la première chose, c'est d'avoir en tête le fait qu'il faut se débarrasser de l'idée habituelle du hacker qui serait uniquement le type derrière son ordinateur en train de pirater la Banque de France, hein. Aux États-Unis et notamment en Californie, donc où j'ai passé un an, les hackers, pour beaucoup de hackers, se démarquent de cette image-là, et ils ont un mot pour dire ça, c'est les crackers, hein, les crackers, hein, les types qui craquent les systèmes. Et les hackers, c'est bien plus que simplement ces pirates, il y a aussi les makers, ceux qui fabriquent. Et donc les hackerspace sont faits pour l'essentiel de makers, et ces hackerspace, on les définit à partir de quatre principes, enfin c'est la proposition que je fais, hein. Grosso modo, premier principe, c'est des gens qui ont envie de faire des choses ensemble. Et donc, il y a un rassemblement de gens qui ont des projets pour fabriquer des choses. Make, hein, c'est ça qui est central. On fait des choses. Hein. Et on ne détruit pas, on fait des choses. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que c'est des endroits qui sont physiquement situés. Et on loue des espaces, on va bricoler ensemble, etc. Donc, ça, vous voyez, c'est un milieu d'une image du hacker qui est dans les nuages, de l'informatique, etc. Donc, les gens se rassemblent, il y a de l'interaction quotidienne, il y a de la vie sociale, il y a du lien social, il y a des fêtes, etc. quoi, hein. Troisième chose, c'est les associations à but non lucratif. Donc, il ne s'agit pas de monter une boîte et de faire du profit, hein. On est vraiment dans le non lucratif, même si ça peut avoir des effets en termes lucratifs et marchands, j'y reviendrai. Et puis, dernière chose, dans les hackerspace, il y a l'idée qu'on va véhiculer et mettre en musique très concrètement l'éthique hacker sur laquelle je reviendrai. Donc, c'est ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, très vite, on est un peu perdu parce que, en réalité, ce monde des tiers-lieux que Yann évoquait tout à l'heure, ça ressemble, vous voyez, comme à le philosophe Wittgenstein disait, c'est toujours très compliqué de classer les choses de manière très claire. C'est comme dans une famille, quoi. Il y a un air de famille, pour avoir des cousins, des frères, etc. Mais là, il y a un air de famille. Donc vous avez d'un côté des hackerspace, vous avez des cousins qui sont les Fab Labs, et puis vous avez encore les cousins qui sont peut-être moins sympathiques parce que plus immédiatement gouvernés par une logique marchande, ce sont les tech shops. Hein. Alors les hackerspace, j'y reviendrai dans un instant, mais le tout premier historiquement qu'on peut repérer est né dans la Silicon Valley en 1975, et déjà là, à ce moment-là, on voit toute l'ambiguïté qui est au cœur de cette innovation organisationnelle, puisque c'était le Homebrew Computer Club, ça a rassemblé des jeunes ingénieurs qui voulaient monter ensemble le premier ordinateur qu'on pouvait fabriquer soi-même, qui était l'Altair 8800. Ils se sont rassemblés, comme dans les films, dans un garage dans la Silicon Valley. Et là, il y avait Bill Gates, il y avait Steve Jobs, il y avait Wozniak et d'autres, bien évidemment, dont un nom de hacker qui vous êtes peut-être familier, qui est Lee Fezenstein, qui sévit encore dans la Silicon Valley. Et très vite, il y a eu un split, hein, une division entre des gens qui vous restaient dans la logique non marchande et puis Steve Jobs qui a pris Wozniak par la main, qui lui dit « Attends, on ne va pas rester avec cette bande de fous, on va faire un job, on va faire de l'argent avec l'Apple. » Donc, vous voyez, dès le point de départ, mais l'histoire des hackerspace a beaucoup à voir avec cette histoire de l'informatique. Et puis, il y a un autre hackerspace très connu historiquement, qui est le Chaos Computer Club, qui est un hackerspace qui est au cœur de Berlin et qui fait des manifestations régulières. Alors, par exemple, tous les ans, entre Noël et Nouvel An, il y a le rassemblement des hackers du monde entier qui a lieu à Berlin, à Hambourg, etc. Et dans un grand centre de congrès, vous avez 6000 hackers. Enfin, c'est un moment assez étonnant à vivre. Donc, qui est très important parce que les hackerspace français sont nés de l'initiative du Chaos Computer Club. Hein. C'est vraiment ça le point de départ, et à Knightsbridge également. Alors, c'est complètement discutable, mais mon avis, c'est que ces hackerspaces sont beaucoup plus que les autres en souci d'articuler le technique et le politique. Et c'est pour ça que dans mon bouquin, d'ailleurs, j'ai mis le sous-titre « Anarchie » et je m'en expliquerai tout à l'heure. Alors, ils sont très présents sur la côte ouest des États-Unis et c'est là que je vais me centrer. Les cousins, c'est les Fab Labs pour laboratoires de fabrication qui sont peut-être plus connus maintenant puisque les médias commencent à en rendre compte de manière un peu généraliste. Le point de départ, c'est la côte est des États-Unis, le MIT, et un type qui s'appelle Neil Gershenfeld qui a lancé un cours au début des années 2000. Et le cours, c'était je vais vous apprendre apprenez à faire presque n'importe quoi. Et puis il a eu un succès fantastique. Il a mis à disposition de ses étudiants des machines pour fraiser, percer, couper, souder, tout ce que vous voulez. Et puis depuis, c'est devenu un concept qui a fonctionné, qui a fait réseau dans le monde entier. Et il y a maintenant une charte des Fab Labs, il y a un logo Fab Lab, il y a des réseaux Fab Labs, etc. Si demain vous voulez ouvrir ce type d'espace avec des machines où les gens viennent bricoler, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez l'étiqueter Fab Lab, il faut respecter un minimum de règles qui ont été édictées au départ par le MIT. Voilà. Côte est des États-Unis, et mon avis, mais on peut en discuter, parce que mes collègues ne sont pas toujours d'accord, c'est quand même beaucoup plus technophile et moins politique que les hackerspace. Hein, voilà. Et puis vous avez les tech shops qui arrivent en France à une vitesse grand V aujourd'hui. C'est l'idée qu'on va créer des espaces où on va prendre un abonnement comme on prend un abonnement dans un club de gym, hein, pour venir faire de la gym. Mais là, on prend un abonnement pour venir bricoler. Et dans ces espaces, on va payer de l'heure, je sais pas quoi, l'usage de l'imprimante 3D, de la machine à commande numérique, etc. Quoi. Comme vous en doutez, le roi Merlin, Bricorama, sont très très intéressés par ce genre de choses et commencent déjà à faire affaire avec ces chaînes tech shop. Voilà, alors, si je regarde la réalité du développement de ces machins-là, ça vaut ce que ça vaut, mais les dénombrements qu'on peut faire montrent que depuis grosso modo la moitié des années 2000, en France et à travers le monde, le nombre de ces espaces nouveaux croît à une vitesse exponentielle. Et même entre le terrain que j'ai fait aux États-Unis et maintenant, vous voyez qu'il y a des choses qui vont vite. Donc ça, c'est une carte qui mériterait encore d'être actualisée, mais vous voyez que ça concerne pas simplement ni que les États-Unis ni que la France, mais il y a aujourd'hui un rayonnement mondial du point de vue de ce type d'expérimentation. Voilà, pour le cas français, c'est un petit travail de recension que j'ai fait à partir des sites internet des hackerspace et Fab Lab. On en recense à peu près aujourd'hui 200 sur l'ensemble du territoire français. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça maille l'ensemble du territoire, y compris certaines zones rurales. Et bien évidemment, Paris et l'Île-de-France est plus centrale en termes de développement de ces tiers-lieux. Rhône-Alpes aussi est pas mal. PACA et un peu la Bretagne sont les points où ça s'est développé. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais après, il y a des photos qui vous en disent plus. Qu'est-ce qu'on fait dans ces machins-là ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces machins-là ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces espaces nouveaux de fabrication où les gens viennent volontairement pour réaliser des projets ? Alors là, c'est une carte qui n'est pas du tout une analyse de données standard, mais qui, qui dit, alors c'est tout petit, hein, faut bien voir, mais grosso modo, il y a quatre types d'activités. C'est ça que ça dit. Vous avez au fond des activités standards de type MJC, c'est-à-dire dans certains Fab Labs, vous avez des ateliers boules de Noël ou coquetiers, tout ce que vous voulez, comme vous pouvez fabriquer ça dans une MJC standard. Simplement, vous avez à disposition toutes les machines qui vous permettent de le faire. Vous avez ensuite des tas de bricolage avec du matériau électronique. Et donc, vous pouvez fabriquer des robots. Il y a un Fab Lab, j'ai oublié son nom, qui s'est spécialisé dans les robots nautiques pour, par exemple, aller inspecter la coque des navires. Vous pouvez, fabriquer des sonars, des antennes paraboliques. Enfin bon, vous pouvez utiliser massivement l'électronique. Ensuite, vous avez les bio hackerspaces, c'est-à-dire ce sont des Fab Labs et des hackerspaces qui proposent de bricoler sur la biologie. Et donc là, je ne suis pas du tout spécialiste de cette affaire-là, mais l'idée, c'est qu'on va bricoler des choses. Par exemple, un Fab Lab assez connu sur Paris, c'est la Paillasse, qui est assez connu notamment parce que leur innovation, c'est de faire de l'encre végétale. Voilà, hein, donc le type de choses qu'on peut faire. Et puis, vous avez de la programmation standard, quatrième type d'activité, qui renvoie davantage à ce qu'on a en tête lorsqu'on parle de hacker, c'est qu'on apprend à faire de la programmation, Python, C++, Perl, tout ce que vous voulez. Donc on est plutôt dans des activités de programmation informatique classique, et puis vous pouvez mélanger tout ça. Donc vous voyez, on va des boules de Noël à la programmation en passant par tous les types de fabrication possibles et imaginables. Alors, quand on regarde très concrètement à quoi ressemble un Fab Lab ou un Hackerspace, ça ressemble plutôt à ce genre de choses. Alors, je vais vous passer pas mal de photos de Noise Bridge, vous verrez à quoi ça ressemble. Alors là à gauche, vous voyez, c'est Noise Bridge, hein, par exemple. Donc, dont j'ai parlé pas mal, mais on retrouve, ça c'est des Fab Labs français, vous voyez, on retrouve des ateliers classiques avec des marteaux, choses comme ça, voilà. Mais ce qui a fait le succès, en fait, de ces espaces, c'est que ces espaces ont utilisé des machines qui utilisent le numérique. Et c'est ça qui est nouveau aujourd'hui, c'est que le numérique, c'est plus simplement l'ordinateur, l'écran ou l'informatique, c'est le fait qu'on va utiliser la puissance du numérique et l'éthique hacker pour repenser complètement notre façon de fabriquer et de produire des choses matérielles. Alors la star que vous connaissez tous de ces machines-là, parce que maintenant on en vend aussi chez Auchan, hein, c'était une vitesse fantastique, c'est la fameuse imprimante 3D, donc qui permet de fabriquer, en tout cas de fabriquer des choses matérielles par système d'ajout de matière. Hein, donc la plus connue, c'est celle qui utilise du plastique, et donc il y a une tête qui fond le plastique, et puis par couches successives, vous fabriquez n'importe quel objet. Mais comme vous le savez peut-être, maintenant on peut utiliser l'imprimante 3D avec quasiment n'importe quel type de matière, du plâtre, du titane, on peut utiliser des matières alimentaires pour fabriquer des pizzas, on fabrique des énormes maisons avec des énormes imprimantes 3D en béton, on peut fabriquer du tissu cellulaire, etc. Donc il y a un avenir a priori productif extrêmement important qui est lié au développement de cette technologie-là qui va à une vitesse grand V. Vous avez ensuite des machines à commande numérique en haut à droite, donc qui vous permettent de fraiser, de couper n'importe quel matériau. Vous avez ensuite ce qu'on trouve quasiment dans tous les hackerspaces et Fab Labs, la fameuse découpeuse laser. Donc c'est un laser qui vous permet de découper n'importe quel type de matériau également. Ensuite, l'autre star, c'est cette petite carte là qui s'appelle Arduino. Donc dans tous les hackerspaces et Fab Labs, maintenant vous avez des tas de workshops, d'ateliers pour vous apprendre à utiliser Arduino. Et Arduino, ça vous permet, pour le dire vite, de programmer sur un ordinateur la façon dont vous allez utiliser et faire bouger un matériel réel, quoi. Pour prendre une idée, une image complètement stupide, si vous avez un lapin, et dont vous voulez, une peluche, hein, pas un vrai lapin, dont vous voulez faire bouger les oreilles, vous programmez sur Arduino la façon dont il va bouger les oreilles, etc. Oui. Donc ça, il faut avoir quelques rudiments de C++, et vous pouvez vous-même utiliser la programmation pour pouvoir gérer vos outils matériels. Voilà. Donc c'est surtout ça qu'on trouve. Alors, je dirais que ce mouvement Hackerspace Fab Lab qui utilise ces machins-là, aujourd'hui, il est pris dans une mouvance extrêmement forte, et on y reviendra quand je finirai mon topo, parce que certains y voient là, et The Economist, je ne sais pas si vous le savez, c'est pas du tout la pointe avancée du gauchisme radical. Hein. C'est un euphémisme que de dire ça, et pourtant, ils ont fait il y a quelques années une première page sur la troisième révolution industrielle vient avec les outils comme l'imprimante 3D. Vous avez des gens qui font aussi un lobbying libéral extrêmement fort. Chris Anderson, par exemple, de la Silicon Valley, a écrit un bouquin qui s'appelle « La nouvelle révolution industrielle », qui a été traduit dans la foulée en France, qui explique que là, maintenant, on va être tous entrepreneurs grâce à ces nouvelles techniques. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un enjeu dans l'usage de ces techniques qui peut nous faire basculer d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que la technique en elle-même n'a pas de sexe politique, si j'ose dire. Hein. C'est l'usage qu'on en fait qui est important. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a tout un mouvement autour de ce qu'on pourrait appeler le mouvement fer au sens large du terme. C'est-à-dire qu'il y a un gros business aux États-Unis, avec notamment un magazine qui s'appelle Make Magazine, qui tire à je ne sais plus combien d'exemplaires et qui surfe sur cette vague qui est l'envie de faire, de bricoler, de faire par soi-même. Et dans cette foulée-là, Dale Dougherty, qui est le fondateur de ce magazine, a fondé des make-faire, c'est-à-dire des espèces de... D'habitude, ch'ti, c'est la fête de l'UMA, hein, du do-it-yourself. Alors, je ne sais pas si c'est la comparaison est bonne, mais...
Maintenant, en France, il y a les Open Midweek.
Oui, alors il y a les camps, mais là, ça ressemble quand même beaucoup plus à la fête du noir. Vous voyez, ça, c'est des photos que j'ai faites à Make-A-Faire dans la Silicon Valley. C'est-à-dire que vous payez une vignette d'entrée, et puis les gens viennent en famille. Hein. Donc vous avez 25 000, 30 000 personnes qui viennent. C'est vraiment des gros trucs. Et vous avez des stands où on expose à la fois des choses comme on peut fabriquer, je ne sais pas quoi, un lapin, on fait fonctionner des imprimantes 3D. Donc toute la philosophie du do-it-yourself est présentée. Et puis, bien sûr, vous avez des stands vegan, végétariens, parce que ça a beaucoup à voir avec la philosophie de l'affaire. Là, vous avez une énorme sculpture qui avait été fabriqué à Burning Man. Je ne sais pas si vous connaissez Burning Man, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Vous avez des robots, etc. Donc, ça dépasse largement vraiment un petit noyau de personnes pour aller viser des familles entières. Hein. Donc, le mouvement est très large, même si je vais me concentrer sur cette tierce. Alors, deux mots sur les hackerspaces de la baie de San Francisco. Normalement, ça va être en rouge, mais ce n'est pas grave. Pour savoir de quel terrain, de quelles images vous projetez, de quel terrain je parle. Alors, allons donc sur la côte ouest des États-Unis, donc à San Francisco. Et j'ai passé beaucoup de temps dans un hackerspace. Normalement, il devrait y avoir une image qui se met en route. Bon, ça apparaît pas. J'aurais dû vérifier avant que ça marchait. Ah voilà, il fallait appuyer sur cette flèche-là. Donc, je vais beaucoup parler de ce hackerspace qui est connu au niveau international, qui s'appelle Noisebridge. Hein. Alors, Noisebridge, il est au cœur de San Francisco. Il est dans une rue qui s'appelle Mission Street, qui est une rue centrale de San Francisco. Et il est au deuxième étage, vous voyez, de ce bâtiment que vous voyez en haut à gauche, donc qui était au départ un atelier industriel de textile. Et puis, ça a été revendu. Et c'était un immense loft quand les hackers l'ont récupéré. Et ils ont fait quelques espaces, ils ont aménagé un peu l'espace, et je vais vous montrer le plan dans un instant. Donc vous arrivez en bas, vous voyez le logo de Noisebridge, vous montez quelques marches, et puis vous arrivez à cette porte-là en bois. Et juste derrière la porte, la première chose que l'on voit, c'est ce petit mot qui est là, et qui dit, si jamais le FBI vient à la porte, voilà ce qu'il faut dire. Donc déjà, ça met dans l'ambiance, alors je vais vous dire pourquoi, parce que, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le système Tor, je ne sais pas si vous êtes des hackers dans l'âme, mais Tor, c'est un système que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur Internet, vous pouvez les utiliser en toute légalité sur votre appareil, qui vous permet de naviguer sur le net sans être repéré. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, votre IP, votre adresse d'ordinateur, c'est impossible de l'avoir. Donc, vous voyez que ça inquiète beaucoup les autorités américaines, vous devinez pourquoi, parce que tous les réseaux terroristes, pédophiles, etc. peuvent utiliser ce système pour pouvoir s'échanger des messages sans être repérés par les autorités. Et il se trouve que Noisebridge gère 10%, 3 ou 10%, je ne sais plus, enfin, qu'importe, une partie de ce réseau Tor. Donc c'est un espace sensible pour cette raison-là. Bien sûr, les hackers ne défendent ni les pédophiles ni les terroristes. Eux, ce qu'ils défendent, c'est la liberté d'utiliser Internet sans être fliqués par les autorités politiques, hein, bien sûr. Donc, ce n'est pas à n'en plus finir, mais voilà. Donc, il y a une chose, donc ça vous explique ce qu'il faut faire. Enfin, bon, c'est assez amusant, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais... Alors, si on rentre après davantage dans Noisebridge, vous voyez, c'est vraiment ça à quoi ça ressemble. Hein, c'est-à-dire un immense bordel, mais un bordel sympathique, c'est-à-dire une accumulation d'objets... De machines dans tous les sens, avec une grande table centrale où les gens viennent bricoler ensemble. Il y a une bibliothèque avec des livres techniques, mais aussi des livres politiques, ce qui est loin d'être le cas dans d'autres espaces. Hein. Dans les Fab Labs, on voit rarement des livres politiques. Donc là, il y a des livres politiques, plutôt anar, etc. Et puis, alors, juste pour l'histoire. Ça, c'est le premier hack qui a été réalisé à Knightsbridge, et c'est la représentation matérielle du jeu de la vie. Donc le jeu de la vie, c'est un jeu qui a été inventé par un mathématicien dans les années 70, et l'idée, c'est de formaliser la façon dont une cellule va se comporter en fonction de son entourage immédiat. Donc s'il y a trop de cellules autour d'elle, elle va mourir le coup d'après. S'il n'y a pas de cellules autour d'elle, elle va mourir après. Et donc, cette cellule, pour pouvoir survivre le coup d'après, il faut qu'il y ait un minimum de cellules autour d'elle. Donc on peut faire des algorithmes, etc. Et ce jeu a été à ce point important dans la philosophie hacker que le symbole des hackers aujourd'hui, ce sont des pions sur un damier. Hein. Et donc ce symbole-là, qu'on voit dans toute la... j'oserais dire les dérivés hackers, vient de ce jeu-là, et c'est la première chose qui a été faite à Knightsbridge. Donc on ne peut pas se tromper. Hein. Quand on arrive dans ce lieu, on sait qu'on est dans un monde hacker. Hein. Enfin bon, il faut décrypter, bien évidemment, mais on ne peut pas se tromper. Alors, pour être tout à fait précis, faisons une visite des lieux. On rentre par la porte là, vous voyez, ici, et la première chose sur laquelle on tombe, c'est une petite table avec une grosse jarre où c'est marqué « Donations ». Alors, je le dis tout de suite parce que c'est la question qui vient souvent, comment ces espaces se financent? Et là, on est aux États-Unis, on n'est pas en France. En France, on est dans une philosophie différente. Première chose, c'est l'espace vit largement grâce aux dons des gens. Hein, donc, il y a, en permanence, on dit, si on veut être autonome, il faut qu'on se finance par nous-mêmes. Hein, donc, il n'y a vraiment aucun souci, il y a demandé du fric en permanence aux gens qui passent. Après, vous avez donc un espace 3D. Donc, tous les jeudis soirs, il y a des hackers qui se rassemblent, qui bricolent des choses ensemble, qui font tourner les imprimantes 3D. Là, vous avez la découpeuse laser. Là, vous avez un coin qui s'appelle Space Bridge, où des gens vont faire des expériences d'ingénieurs astronomes en herbe. Ils envoient des iPhones dans l'espace. Enfin, bon, bref, ils hackent hein, l'activité espace. Ensuite, là, vous avez un coin important qui est le coin couture. Donc, il y a des machines de couture industrielles. Et les gens viennent avec des vieux vêtements, ils refont des vêtements neufs, ils font des vêtements à la mode, ils font des vêtements qui vont truffer d'électronique, etc. Et tout ça uniquement avec des vêtements qui ont été récupérés. Hein, donc l'idée, qui correspond bien à la philosophie hacker, c'est qu'on bricole. Et bricoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un usage intelligent de choses complètement hétérogènes. Hein, et donc on est vraiment bien dans cette idée-là. Là ensuite, vous avez l'espace des membres. Ce sont des étagères. Alors normalement, j'y reviendrai si j'ai le temps. C'est un des privilèges des gens qui payent une cotisation, c'est qu'ils peuvent entreposer hein, s'ils sont en train de bricoler sur ces étagères-là. En réalité, tout le monde vient foutre son bordel dans les étagères, et donc dès qu'on voit un peu comment ça fonctionne, on voit bien qu'il y a un grand écart entre la règle et la réalité. Là, vous avez les tables donc, de réunion, les gens, le matin, il y a beaucoup de coworkers hein, qui viennent travailler là le matin, et puis toutes les réunions du lieu se font là. Alors ce qui est super, c'est que surtout pour moi, c'est que j'ai assisté quasiment à toutes les réunions. Le mardi soir, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Vous passez dans le coin, vous montez, il y a une question en débat, vous prenez la parole, vous votez, etc. C'est pas un souci. Hein. Donc, c'est un espace ouvert. Et quand ils discutent, ils tapent en permanence, directement sur le grand écran, ce que raconte la personne en train de parler. Hein. Après, ça va directement sur le wiki. Alors, pour un Français qui suit des débats américains, c'est génial, parce qu'il y avait en direct ce qu'il racontait. Là, donc, vous avez c'est surtout ici donc la bibliothèque. Il y a un coin photo, mais à l'argentique, bien sûr. Et puis là, il y a un coin cuisine. Donc, coin cuisine important. Je ne vous ai pas dit, mais moi, j'ai passé pour justifier. Je ne suis pas du tout informaticien. Hein, pour justifier ma présence, j'ai fait un peu de cuisine, quoi. Hein, donc, j'ai hacké parce qu'on hack aussi la cuisine. Hein, tout peut se hacker chez les hackers. Et donc, régulièrement, on faisait de la cuisine, et la cuisine végétarienne, bien évidemment. Quoiqu'une fois, j'aurais fait du lapin, ça aurait fait un peu peur, parce que pour les Américains, le lapin, c'est des rats. Hein, donc, Mais bon, ils ont mangé quand même. Après, vous avez deux salles de cours, Church et Turing. Alors, Church, ce n'est pas l'église, hein, rassurez-vous, c'est le nom de deux informaticiens. Voilà, donc deux informaticiens très connus. Et là, tout régulièrement, les sur la semaine, il y a des cours gratuits qui sont donnés. Et donc, vous pouvez apprendre à programmer si vous voulez. Si vous voulez apprendre, je ne sais pas quoi, C++, vous vous inscrivez et puis hop, il n'y a pas de souci, vous apprenez. Et puis, pour finir, le Dirty Shop, c'est l'endroit où il y a les marteaux, les tournevis, le bois, etc. Donc, c'est l'atelier classique, quoi. Mais un gros atelier, vous pouvez percer, faire tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est un immense atelier Et puis tout ça est décoré avec des références à la culture hacker, à l'anarchisme, etc. Quel est le sens de votre question en disant que qu'est-ce qu'elle fait là?
Je veux dire par là, c'est une manière d'expérimenter.
D'accord, ok. Déjà, non, en fait, le point de départ, c'est que les gens peuvent venir dans l'espace tous les jours que la semaine fait, et jusqu'à minuit, enfin, ils peuvent y passer la nuit. Donc, c'est un coin où les gens viennent se faire à manger, tout simplement parce qu'ils sont là, quoi. Et en même temps, il y a des activités de hacking appliquées à la cuisine. Hein, les deux à la fois, quoi.
Faire les épluchures.
Ouais, oui, alors, je vais vous raconter ça après.
Ils font la bouffe avec les épluchures.
Alors, pas que les épluchures, mais comme ils sont très liés avec le mouvement Food Non-Bombs, qui est très actif sur San Francisco, une grosse partie de la cuisine qui est faite, c'est avec de la récup, en fait, en réalité. Ouais. Mais c'est logique, parce que c'est la logique du bricolage. On fait avec ce qu'on récupère, quoi. Enfin, oui?
Mais hacker de la cuisine, bon, hacker pour moi, pour l'informatique, ça va, mais pour la cuisine,
Ouais,
je veux que vous me disiez.
ouais. C'est ce que je viens de dire. C'est le hacking, c'est le bidouillage. Et le bidouillage.
Je veux dire en français, alors. Ce que moi, je
Ouais,
comprends.
oui, mais. Non, mais c'est vrai. Mais c'est le vrai problème, c'est comment rendre compte du terme hacker. Parce que quand on parle de hacker, on ne parle pas de bidouilleur, quoi. Bon, en tout cas, l'idée,
Si on
l'esprit, c'est.
était allé au Canada, je suis sûr qu'ils entendent.
Oui.
Ça vient d'un mot français qui veut dire haché.
C'est très bien, c'est très bien. Mais
Monsieur, notre
on y reviendra. On y reviendra. Alors, je voulais juste vous présenter des autres espaces, parce que j'ai passé beaucoup de temps à Knightsbridge, qui est le plus marrant, mais je voulais vous dire qu'il y a d'autres espaces. Par exemple, celui-là, c'est un peu l'antithèse. Donc, pour bien vous représenter les choses, San Francisco est là, et ce qu'on appelle la Silicon Valley, c'est ça. Hein. Donc, au cœur de la Silicon Valley, il y a un autre hackerspace qui s'appelle Hacker Dojo. Et lui, alors là, c'est pas du tout le même look, hein, vous voyez, donc l'entrée est quand même plus clean, etc. Vous voyez comment c'est à l'intérieur, il y a des banquettes, c'est clean, etc. Il y a des petits box pour. J'ai fait un plan à la main. Et en fait, ce hackerspace, il est, comment dire, fréquenté pour moitié par des gens qui montent des startups. On est juste à côté de Google, juste à côté de LinkedIn, etc. Donc ces gens-là profitent de leur implantation dans la Silicon Valley pour pouvoir monter leur propre projet et être en synergie immédiate avec les grosses boîtes. Et souvent, d'ailleurs, leurs clients, ils les trouvent dans le box d'à côté. Hein, donc là, vous voyez, c'est une espèce d'incubateur d'entreprise, mais qui a pris le terme de hackerspace. Alors, je pourrais vous raconter l'histoire parce qu'elle est assez marrante, mais au départ, c'était des gens qui faisaient des fêtes. Et puis, ils faisaient des fêtes un peu partout, et puis cherchaient un lieu, et ce lieu s'est transformé en hackerspace. Alors, je vais assez vite parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a un troisième au cœur de la Silicon Valley qui s'appelle BioCurious, qui est un des premiers biohackerspaces qui a vu le jour aux États-Unis et dans le monde. Et donc là, vous voyez, l'idée, c'est qu'on est quasiment dans un laboratoire de biologie standard, mais ça fonctionne selon les principes d'un hackerspace. L'autre qui est assez sidérant est à Auckland, c'est un entrepôt de 5 000 mètres carrés, et là, c'est quasiment une PME. Hein. Et vous voyez, là en bas, vous avez tout le matériel pour forger, pour apprendre à forger. Donc si vous voulez apprendre à forger, aucun souci, vous allez là-bas. Vous avez des machines qui sont des machines qui vraiment trouveraient leur place dans n'importe quelle boîte parce que ce sont vraiment du haut niveau technologique, etc. Donc, ça s'appelle The Crucible, ça veut dire le creuset. Et donc, l'idée, c'est de reconstituer un environnement industriel dans lequel vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si j'ose dire, c'est un peu la logique de la petite production de Marx. C'est-à-dire que ce sont des artisans qui vont se mettre en synergie dans un même lieu pour pouvoir profiter du savoir-faire des gens qui sont à côté. Donc ça, c'est un espace intéressant. Un autre qui m'a beaucoup fasciné également, c'est le premier hackerspace féminin. En tout cas, c'est comme ça qu'elles le disent. Donc ce sont des femmes aussi sur Auckland qui ont fondé un hackerspace qui s'appelle Hackamans, qui veut dire les femmes hackers. Donc vous avez là une photo de certaines des fondatrices. Et là, l'idée est un peu différente. Ce sont des femmes qui souvent ont fait des études et puis très vite ont été pris dans la logique des rôles sociaux qu'on leur a imposés, d'être mère et épouse. Et puis elles en ont eu marre, quoi, d'avoir un mari qui travaillait, d'élever des enfants, et pourtant d'avoir des compétences. Elles ont toutes fait des études, notamment au milieu artistique. Et donc, elles se sont dit, on va rouvrir un espace, et puis on va se démerder pendant qu'on hack, qu'on fait de la photographie, de la gravure, etc. Eh bien, il y en a une d'entre nous qui va s'occuper des enfants, ou bien on va payer ensemble une babysitter qui s'occupera des enfants, et donc on va pouvoir hacker. Et vous voyez, immédiatement, il y a un enjeu social, c'est de sortir du rôle social dans lequel elles étaient imposées qu'elles ne supportent pas. Alors, il y en a d'autres encore. Le dernier que je pourrais juste vous évoquer, parce qu'on est dans une logique très américaine, c'est il a été fondé par ce monsieur-là qui, mine de rien, est un ingénieur informatique de très très haut niveau et qui a fondé un hackerspace qui s'appelle LOL et qui est un hackerspace pour les minorités ethniques. Hein, donc pour les gens de couleur, pour les LGBTI, etc. Donc, ce qui est frappant pour un œil français, c'est qu'il y a une structuration communautaire, en fait, de ces espaces-là et qu'on ne trouve absolument pas dans le cas français. Bon, il y en a un autre que je n'évoque pas. Alors, je vais rentrer maintenant dans... il faut juste que je regarde l'heure. Oui, le problème, c'est que... Bon, alors, je vais peut-être passer vite, parce que ce qui est plus amusant, c'est le 3. Je voulais juste dire que ces hackerspaces sont à la fois le produit donc, de l'histoire de l'industrie informatique. Et là, vous avez une photo donc, du Homebrew Computer Club dont j'avais évoqué l'existence en 75, et là, c'est le premier ordinateur qu'ils ont essayé de monter ensemble dans ce fameux garage de la Silicon Valley. Donc, ils sont vraiment le produit de cette histoire-là, et ces hackers qui ont commencé à bricoler des ordinateurs, ils ont progressivement, ils sont constitués en groupe social avec des valeurs communes. Et ces valeurs communes, elles ont été notamment écrites dans un livre que tous les hackers de la Silicon Valley, de la Californie connaissent, qui s'appelle Hackers, de Stephen Levy, qui est un journaliste. 84, ça a été traduit en France l'année dernière, pour vous dire à quelle vitesse ça va, hein, l'information. Et donc, l'éthique hacker, qui a été vraiment construit progressivement par tous ces gens qui viennent de l'informatique, ça repose sur plusieurs principes. Toute information doit être libre, il ne faut jamais faire confiance à l'autorité, donc c'est un point de vue anti-bureaucratique et derrière un point de vue anti-IBM, bien évidemment, qui est l'ennemi par excellence des hackers. L'idée qu'un hacker se juge d'abord avant tout sur sa compétence et non pas sur son sexe, la couleur de sa peau, etc. Qu'il est possible aujourd'hui de repenser notre rapport au travail et à la création en faisant du beau. Hein, on n'est pas qu'on va faire des choses horribles. Et que, ça c'est cinquième point, chose qu'on peut peut-être davantage discuter, les ordinateurs et la technique de manière générale est un outil d'émancipation sociale. Donc ça se discute, mais en tout cas, c'est vraiment au cœur de l'idée de Silicon Valley. Alors, deuxième racine, et je n'ai pas le temps de rentrer trop dans le détail, mais c'est la contre-culture libertaire des années 60, qui a été extrêmement centrale hein, pour comprendre ce mouvement de hackers. Et cette contre-culture libertaire, elle a donné lieu à ce qu'on pourrait appeler une espèce de religion de l'objet. Et un des porteurs de ça, c'est ce type qui est en haut, là-bas, à gauche, qui s'appelle Stewart Wand, qui est quelqu'un de très connu dans le monde hacker, qui est au départ un des fers de lance de la contre-culture libertaire dans les années 60, et il avait créé un catalogue qui s'appelle The Whole Earth Catalog, qui recensait tous les outils disponibles pour l'homme blanc américain qui va conquérir de nouvelles frontières. C'était un peu le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne, si certains d'entre vous s'en souviennent, hein, et qui permettait d'émanciper les gens. Hein. Et ce type, maintenant, est devenu le chantre du libéralisme de la Silicon Valley. Donc, il a basculé complètement hein, d'un aspect libertaire à un aspect libertarien. Mais toujours est-il que cette contre-culture qui met la liberté au cœur de toute chose est vraiment centrale dans le mouvement hacker. Alors, si on a le temps dans le débat, on pourra revenir notamment sur Burning Man, qui reste une chose assez intéressante, qui est un mouvement qu'on retrouve tous les ans et qui symbolise bien hein, ce mouvement hacker. Alors, comme le temps file, je voudrais vous parler essentiellement de Noisebridge et de la manière dont ça fonctionne très concrètement. Hein. Voilà, je vais faire ça. Alors, je vais le faire, alors il faut que j'y arrive, en parlant de ce qu'on pourrait appeler le travail hacker, qu'est-ce qu'ils font comme travail dans le hackerspace, qui sont ces gens, comment ils arrivent à gérer la communauté, et j'irai pour finir qu'à mon avis, on a une espèce de quasi-communauté de travail. Alors, qu'est-ce qu'ils font très concrètement? Je vous l'ai dit, quand on rentre dans Noisebridge, on voit ce genre de choses, hein, des gens qui bricolent dans des coins, des gens qui font des petits bricolages, des gens qui sont sur l'imprimante 3D, ou bien des hackers avec le look classique, hein, qui sont en train de faire de la programmation. Alors, pour présenter ce qu'ils font très concrètement, je vais vous donner des exemples. Par exemple, voilà cette jeune femme. Cette jeune femme, dans la vie, elle est ingénieure à Berkeley, qui est une des meilleures universités des États-Unis, et elle est spécialiste de neurosciences, donc la façon dont le cerveau fonctionne. Et ce qui l'insatisfait dans son travail, c'est que les programmes de recherche sont commandités par des clients, par l'État, etc. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient à Noisebridge pour imaginer d'autres types de recherches qui ne sont pas vraiment juste des petits bidouillages du dimanche, hein, puisque vous voyez, elle a un casque sur la tête, je ne sais pas si vous voyez, c'est les casques qui permettent d'enregistrer les ondes encéphalogrammes. Et son idée, c'est de faire bouger par ces ondes-là un fauteuil roulant. Et donc on n'est pas sur des choses qui sont complètement... ce n'est pas simplement fabriquer des boules pour le sapin de Noël. Hein. Donc voilà le type d'activité. Alors autre type d'activité, c'est ce qu'ils disaient tout à l'heure, c'est la cuisine. Et donc là, il y a une activité régulière donc des coins, parce qu'on est dans une philosophie californienne, libertaire, etc. Donc on privilégie la cuisine végétarienne, et il y a une connexion extrêmement étroite entre l'espace et Food Non Bombs, qui est un mouvement militant, donc littéralement la nourriture, pas les bombes. Et donc l'idée, c'est d'approvisionner régulièrement l'espace à l'aide de nourriture qui n'est pas utilisée par les supermarchés, ou qui n'a pas été vendu, qu'on va récupérer derrière un stand sur un marché, etc., etc. Je vous l'ai dit, on fait également de la couture. Alors, j'ai vous dire deux mots d'une autre chose qui était un des succès de Noise Bridge, qui est ce jeu-là. C'est un jeu qui s'appelle Code Hero, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Code Hero, c'est un jeu qui a été fabriqué par ce jeune garçon, qui a un parcours assez étonnant, il vient du Canada. Et comme beaucoup de gens dans ce Hackerspace, c'est quelqu'un qui a une vraie intelligence vive, mais il s'y est pas retrouvé à l'université. Il s'est inscrit à Berkeley, il voulait faire de l'informatique, et puis il s'est cassé au bout d'un moment parce qu'il ne supportait pas les codes et les normes de l'université américaine. Et donc du coup, il est venu à Noise Bridge, et il a développé une idée de jeu. Ce jeu s'appelle Code Hero, et l'originalité de ce jeu, c'est que c'est un jeu pour apprendre à fabriquer des jeux. Donc l'idée, vous voyez, c'est de rendre les gens autonomes en apprenant à jouer. Et c'était un vrai succès. C'était un vrai succès. Il est passé aux conférences TED, il a eu des pages entières dans les journaux économiques, etc. Il a fondé une petite boîte et il a embauché des gens de son hackerspace. Et du coup, ils vivent ensemble, vous voyez, dans une maison bleue à San Francisco. Donc ils ont fait communauté. Alors, t'as rien. Alors, dernière illustration, parce que je l'aime beaucoup, c'est Mitch Altman, qui est le fondateur de Noise Bridge, qui est un hacker de réputation internationale, et qui, lui, a commencé à vivre de ses hacks en inventant ce qu'il appelle le TV Bigon. Alors, TV Bigon, c'est quoi? C'est un petit appareil que vous pouvez avoir dans votre poche, et sur lequel il y a un seul bouton. Et ce bouton vous permet d'éteindre toutes les télés, quelle que soit leur marque. Et donc, vous allez chez Darty, vous appuyez sur le bouton, tout s'éteint. Et donc, le geste de départ de Mitch Altman, c'était un geste militant. Vous voyez bien, hein, l'idée, c'est de dire, j'en ai marre de cette merde qui passe dans les médias, je vais trouver quelque chose pour arrêter ça. Et puis après, ben, ça a été rentable pour lui, parce qu'il a continué à fabriquer ce truc, il le fait fabriquer en Chine maintenant, et il a suffisamment d'argent, non pas pour être un milliardaire, il vit très chichement, mais avec le fric que lui rapporte TV Bigon, eh ben, il fonde des hackerspaces sur la Terre entière aujourd'hui. Voilà, alors, autre chose qui est importante que j'avais signalé, c'est les cours. Donc, systématiquement, vous avez des cours qui sont des cours d'informatique pour l'essentiel, qui sont développés, qui sont donnés à Noise Bridge. Alors, deuxième chose, qui sont ces gens? Pour le dire très rapidement, les hackers qui sont dans les hackerspaces, mais on l'a vérifié aussi en allant dans les Fab Labs français, ce sont pour l'essentiel des jeunes hommes, blanc, et le terme blanc dit quelque chose aux États-Unis, hein, vous imaginez bien, qui ont plutôt un profil technicien-ingénieur, donc des gens qui ont été frottés par leur formation aux questions de technique, d'ingénierie et d'informatique. Plutôt, alors ça c'était assez sidérant, je ne crois pas aux lois sociologiques, mais alors ça m'a sidéré. J'ai fait une centaine d'entretiens pour faire des histoires de vie des gens, pour savoir d'où ils venaient, pourquoi ils sont devenus hackers, etc. Et dans beaucoup de cas, la mère était musicienne, faisait de la sculpture, etc., donc artiste, et le père était ingénieur ou technicien. Donc très tôt, c'est des gens qui ont, par leur éducation, hein, ont réussi à mixer une sensibilité à la technique et une sensibilité à l'art. Et donc le hacking aujourd'hui est aussi l'expression de ça, cette idée qu'avec la technique, on va produire des choses nouvelles, artistiques, originales, belles, etc. Hein. Troisième caractéristique, c'est des gens qui n'ont pas réussi à l'école. Ça, c'est assez étonnant. Tous racontent qu'ils étaient des gens intelligents, mais ils n'étaient pas dans le moule, quoi. Donc, ils ont voulu sortir du moule scolaire. Et les hackerspaces, c'est un moyen pour ces gens-là de retrouver des lieux pour pouvoir exprimer leur créativité. Quatrième caractéristique, et pour un Français, je peux vous dire que c'est un choc culturel. à Noisebridge, vous avez des gens qui sont sans domicile fixe, qui travaillent avec des gens qui sont ingénieurs chez Google. Être ingénieur de Google, chez Google, c'est le haut de la hiérarchie sociale dans la Silicon Valley. Donc il y a un brassage entre les classes sociales qui n'a rien à voir avec la réalité française, qui est une réalité extrêmement segmentée, structurée, etc. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes, j'y reviendrai. Alors, comment on devient membre, je vous dirai ça plus tard. Troisième chose que je voulais vous dire sur la façon dont fonctionne Noisebridge, c'est un truc assez intéressant, c'est comment on fait vivre ensemble une communauté où chacun peut venir comme il veut. Il y a quand même une centaine de personnes qui sont là régulièrement, donc il faut faire vivre ces gens-là. Alors, de façon officielle, Noisebridge se dit anarchiste. Anarchiste, ça veut dire pas de règles ou minimum. Et donc il y a une seule règle, qui est celle-ci, Be excellent to each other dudes, qui est extrait d'un film culte aux États-Unis, c'est-à-dire soyez sympa avec les autres, quoi, en deux mots, et après pas de règles pour organiser l'espace. En réalité, quand on vit dans l'espace avec les hackers, on s'aperçoit qu'il y a 1000 règles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dormir sur place, si vous voulez utiliser le labo photo, il faut prévenir quelqu'un, si vous mettez quelque chose dans le frigo, il faut mettre votre nom et quand est-ce que vous allez poster la bouffe, etc. Mais bon, officiellement, une seule règle. Pour la petite histoire, le premier hackerspace français qui a été fondé en 2007 en France s'appelle le TMP Lab, et lui, il est dans la même philosophie. Et quand on regarde son règlement intérieur, il n'y a qu'une règle, c'est règle numéro 1, 2 points, faire en sorte qu'il n'y ait pas de règle numéro 2. Vous voyez, on est dans cet esprit-là, donc on fait sauter les règles. Alors, quand on regarde maintenant plus en détail les choses, on s'aperçoit que, au fond, cet espace fonctionne à partir de deux principes centraux. Premier principe important, c'est le consensus. On est chez les anars, et donc on condamne le vote. Donc, quand il faut prendre une décision qui a trait, à la vie de l'espace, est-ce qu'on va déménager, est-ce qu'on fait venir un plombier, etc., est-ce qu'on va recruter telle personne comme membre, etc., il faut que ça soit systématiquement au consensus. Parce que voter, c'est l'expression d'une domination, d'un groupe dominant sur un groupe dominé. Voilà. Alors ça, c'est la philosophie, au fond, qui traverse l'ensemble des organisations, des mouvements alternatifs de la baie de San Francisco. Et Noisebridge est l'expression de ça. Et là, vous voyez, c'est un bouquin que j'ai trouvé dans l'espace, qui est un bouquin épais comme ça, qui explique comment gérer un groupe sur la base du consensus dans les organisations alternatives. Donc ça s'apprend. Donc, quand vous allez dans les réunions du mardi soir, vous passez des heures de discussion, vous voyez bien, c'est le consensus, donc des heures de discussion pour savoir simplement si on déplace la table ou pas. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a ça, donc le mardi soir, on travaille au consensus, et puis il y a une deuxième règle dans le monde hacker, c'est la duocratie. Donc ça, c'est, une affiche que vous trouvez affichée dans Noisebridge, et la duocratie, elle correspond à l'application de la philosophie du faire, du make, au monde de l'organisation. L'idée, c'est celui qui fait est légitime. Donc la philosophie de l'action, C'est celui qui fait qui a raison. Si dans l'espace, vous voulez bouger une table et la déplacer de 2 mètres, puisque vous avez pris l'initiative et que vous faites les choses, c'est vous qui avez raison. Donc vous imaginez bien qu'au quotidien, entre philosophie du consensus d'un côté et duocratie de l'autre, ça frotte, Alors, exemple on pourrait, le bouquin en raconte plein d'exemples, mais... Exemple qui avait pu le frapper, il y a un jeune hacker qui passait ses nuits quasiment dans l'espace, qui à un moment donné a dit, vous vous souvenez peut-être, il y avait les étagères des membres dans un coin de l'espace. Il a dit, je vais tout bouger, on va gagner un peu d'espace si je bouge toutes les étagères. Et donc il a passé la journée tout seul à tout bouger. Résultat, plus personne n'a retrouvé ses affaires, c'était le bordel intégral, les gens étaient mécontents, etc. Bon. Le mardi d'après, réunion hebdomadaire, il s'est fait tirer les oreilles par les autres, en disant, mais qu'est-ce que t'as foutu, c'est le bordel. Alors, le type n'était pas content, il s'est dit « Quoi ? Je me fais engueuler parce que je hack un hackerspace, je me mets en grève de la faim !» Et donc il s'est mis en grève de la faim pendant 2 heures, mais vous voyez, c'est quand même pas facile au quotidien. Et résultat des courses, j'ai travaillé sur l'ensemble des emails qui s'échangent sur la liste de Noisebridge, et on comprend mieux pourquoi la chose la plus importante qui préoccupe les hackers de ces espaces-là, quand ils s'échangent des emails, c'est la vie quotidienne. Les deux premiers thèmes, c'est vie quotidienne et gestion et pilotage de l'espace. Donc, grosso modo, la grande leçon, c'est que faire vivre un espace anarchique, c'est beaucoup de boulot. Parce que c'est pas simplement, comme on disait, l'autogestion, c'est pas de la tarte, mais on pourrait dire la même chose. Donc, quand on regarde les choses au quotidien, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Alors, je vais finir sur une quasi-communauté de travail pour vous dire que ce qui est frappant lorsqu'on regarde les hackerspaces, mais c'est vrai aussi pour les Fab Labs, c'est de voir comment ces organisations, au fond, emprunte des traits aux grandes organisations classiques que peuvent être les entreprises, les administrations, les bureaucraties, les universités, etc., mais pour en subvertir parfois les principes. Alors ça se traduit comment ? Ça se traduit d'abord par le fait que chacun a une identité propre. Chaque hackerspace, c'est vrai pour les Fab Labs aussi français, a un nom. Hein. Et ils ont tous d'ailleurs des autocollants, et quand vous voyez les hackers avec leur ordinateur, ils ont tous des autocollants qui sont collés sur leur ordinateur. Donc vous avez Hacker de Joe dont on a parlé, Noisebridge là-haut, etc. Donc, première chose, utilisation d'un logo, il y a même celui-là qui est Ace Monster Toys, qui est un mauvais jeu de mots avec un film qui avait été fait à Auckland, qui a même fait un hymne musical hein, du lieu. Donc on crée de la communauté avec ces machins-là. Deuxième chose, c'est qu'on crée la communauté avec des événements. Donc ça, c'est par exemple une des réunions du mardi soir, hein, où les gens discutent, mais on discute de façon cool, comme on dirait. Hein. C'est-à-dire que la réunion, les gens peuvent avoir les pieds sur les tables, sont toujours en train de bricoler et participent à la réunion, donc on fait exploser les codes habituels de la réunion. Une des choses qui fonctionne assez bien à Noisebridge, c'est aussi un autre rite qui participe de ce qu'ils appellent, non sans humour, des unconferences, c'est-à-dire des non-conférences. C'est-à-dire ils reprennent le principe, vous voyez, des conférences telles qu'on peut les avoir dans le milieu académique ou politique, etc., mais en les travestissant. Exemple, je me souviens, il y a un type une fois qui était venu parler, je crois, des imprimantes 3D, les nouvelles technologies, etc. Très sérieux, sujet très sérieux, et il y avait un mec qui s'était fait des pâtes, qui était juste à côté de lui, il bouffait ses pâtes à côté de lui, et il lui posait des questions pendant que l'autre expliquait alors les nouvelles technologies, etc. Vous voyez, on travestit complètement la façon dont ça fonctionne. Et un truc qui fonctionne bien, c'est ça, c'est 5 minutes de gloire, donc c'est une fois par mois le jeudi soir à Noisebridge, on donne la parole à qui le veut pendant 5 minutes. Donc vous vous inscrivez, et par exemple vous êtes spécialiste du mouvement noir américain aux États-Unis entre 1929 et 1930, vous allez faire un topo de 5 minutes devant tout le monde. Et après il y a un mec qui va passer, qui va raconter comment il est en train de hacker sa guitare électrique, et il voudrait des conseils, etc. Ensuite, il y a un type qui va passer, ça c'est vrai, qui fait un modèle mathématique pour vous expliquer comment choisir de façon optimale un conjoint ou une conjointe, etc. Vous voyez, donc on part en tous les sens, et ça marche du feu de Dieu, parce que vous donnez la parole pendant 5 minutes à qui le veut, 5 minutes ça va, parce que des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de la parole peuvent prendre la parole, et puis vous allez dans tous les sens, il y a des gens qui après vont discuter avec vous, et ça fonctionne très bien. Donc vous avez des événements de ce type-là. Ce qui fait communauté aussi, ben, c'est à Noisebridge comme ailleurs, la fameuse boisson des hackers que vous connaissez peut-être, hein, c'est le club maté. Et le truc peut-être le plus marrant, parce que c'est assez anthropologique, c'est que dans tous les colloques hackers, vous avez, comme Yann à son bras là, pour aller manger là, hein, une espèce de truc, de petit ruban. Et les hackers qui sont les plus mordus du monde hacker sont tellement liés à ce mouvement-là qu'ils gardent leur bracelet. Et donc, vous voyez, comme certains Indiens, on devine la hiérarchie indienne à partir du nombre de plumes qu'ils ont sur la tête, là, vous pouvez deviner la place et le rôle hein, des gens dans le milieu hacker à partir du nombre de bracelets en tissu qu'ils ont les uns et les autres. Voilà. Alors, je finis, parce que là, j'ai parlé trop longtemps, en posant des questions sur levier d'émancipation ou pas. Alors, là, il faudrait du temps pour dialoguer, mais je dis en deux mots, puis ça c'est la partie peut-être académique et moins marrante, mais mon idée dans ce travail, dans ce bouquin, etc., c'est de dire que le monde hacker réinvente un nouveau rapport au travail. Et ce rapport au travail, il est marqué fondamentalement par une exigence d'autonomie. Autonomie individuelle, c'est-à-dire que dans Hackerspace, vous fabriquez ce que vous voulez, vous n'avez pas un chef sur le dos. Vous pouvez collaborer pendant 30 secondes avec quelqu'un ou pendant 3 ans avec quelqu'un, ce n'est pas un problème. Hein. Donc on est vraiment dans des espaces de liberté qui sortent complètement de la relation hiérarchique qui est la relation centrale de la relation salariale, première chose. Deuxième chose, c'est que ce que vous faites, vous pouvez le faire sans forcément être contraint par une logique de valorisation marchande. Hein, donc, alors, ce qui n'empêche pas, je vous l'ai dit, qu'il y ait des gens qui gagnent leur vie. Mais le point de départ du mouvement hacker, c'est-à-dire, commence par faire des choses qui t'intéressent. Et après, éventuellement, ça pourra marcher ou pas, etc. Donc ça, c'est vraiment l'idée centrale. Alors, maintenant, dans le monde hacker, il y a des tas de tensions. Et moi, j'ai repéré pour ma part deux tensions dans ce monde hacker. La première, vous l'avez compris, c'est celle qui oppose les crackers aux makers. Ça, c'est une photo de Mitch Altman dont je vous ai parlé, hein, le fondateur de Noisebridge. Et je peux vous dire que les makers ne sont pas du tout en sympathie avec les crackers. Hein.
Qui disait qu'il y avait le...
Ah, ça, je sais plus. Ça, j'ai dû piquer ça quelque part.
C'est pas un maker qui veut devenir maker.
Ah, ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait complètement. Donc, vous voyez, d'ailleurs, vous avez ici le logo de Noisebridge là, sur le t-shirt de. Et par exemple, une anecdote aussi, je l'ai racontée dans le bouquin, il y a un moment donné, un type qui a commandé des pizzas à Noisebridge en détournant un numéro de carte bleue. Donc il a arrosé tout le monde de pizza, tout le monde était content. Et puis après, on s'est aperçu qu'il avait craqué une carte bleue. Donc après, il s'est fait virer immédiatement. Hein, donc, voilà. Donc ça, c'est une première tension importante. La deuxième, c'est celle qui oppose d'un côté les purs informaticiens à ceux qui tentent, comment dire, de généraliser le modèle du hacking à d'autres domaines que simplement le domaine informatique. Alors comme je vous l'ai dit, on peut hacker des vêtements, on peut hacker de la nourriture, on peut bien sûr hacker de la musique également, mais on peut aussi hacker la société. Et il y a toute une frange, à Noisebridge essentiellement, qui dit, eh ben, on va, notre engagement de hacker doit être au service d'une transformation de la société. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement proches de toute une série de mouvements sociaux qui sont dans la baie de San Francisco, dont au premier chef, Food Not Bombs, mais il y en a d'autres. Hein, il y a, qu'est-ce que c'est, du café, Home Not Jails, il y en a un autre, c'est du café pas les flics, etc. Donc ils sont très proches des milieux alternatifs. Et au moment où il y a eu tout le mouvement Occupy, il y a beaucoup de hackers de Noisebridge qui ont utilisé leurs compétences techniques pour pouvoir aider les gens qui campaient à San Francisco, à Berkeley, etc., qui n'avaient pas d'électricité, donc ils ont bricolé des LED. Certains d'entre eux ont fabriqué le site d'Occupy San Francisco, etc. Donc il y a une connexion extrêmement forte avec l'idée que le hacking, ce n'est pas simplement du bricolage informatique, on peut aussi bricoler la société, et les hackerspaces, d'une certaine manière, sont des lieux où on bricole d'autres rapports sociaux alternatifs par rapport au monde dominant. Hein. Voilà le bus, vous voyez, Pardon ?
Quelles sont les caractéristiques
Alors, sont pour l'essentiel des groupes anarchistes. Et donc, le type de hack social, eux, qui les intéressent, c'est de construire des espaces alternatifs qui sont fondamentalement des espaces horizontaux. C'est-à-dire qui rompent avec toute logique de hiérarchie organisationnelle. Il n'y a pas de chef. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que si je prends le cas de Noisebridge, on s'aperçoit que il n'y a pas des chefs, mais il y a des gens qui veillent quand même à ce que ça se passe bien, quoi. Et ça, il faut vraiment rester longtemps dans la communauté pour le voir. Ce sont pour l'essentiel les anciens, les fondateurs, et eux, ils remontent au créneau quand il y a des pépins, quoi. Mais la philosophie du hacking appliquée à la société, je dirais, il faut qu'on ait une organisation horizontale de la société. C'est ça vraiment l'idée, quoi. Voilà. Alors, je voulais juste finir en disant que, pour Yann, photo de Stallman, qui était venu. Vous l'avez vu peut-être à la fête de l'UMA, et donc il est passé à Noisebridge, et je peux vous dire que quand il est passé à Noisebridge, alors là, c'était la folie furieuse, hein, quoi. C'est Patrick Bruel avec les mini-dettes il y a une dizaine d'années. Tous les hackers du coin étaient complètement fous que Stallman vienne à Noisebridge. Et vous savez donc que ça fait partie des tensions, hein. Il y a une opposition entre le mouvement free que promeut Stallman et puis le mouvement open source qui a été développé par Eric Crémon, qui est un autre hacker extrêmement connu. Donc enfin bref, ça participe aussi des difficultés de ce monde hacker. Pardon ?
Qu'est-ce qu'il est de beau ? Vas-y Yann, parce que le logiciel libre, tu as 4 libertés. C'est-à-dire liberté de modifier le code.
C'est les quatre, sont là, les quatre libertés.
Liberté d'usage, liberté de diffuser sa création, et je me souviens jamais, et
rendre public les modifications.
Usage peut modifier le code, interdiction d'un usage commercial. Ah oui, ça c'est les
créations. Ça c'est, voilà.
Permettre se servir du logiciel, le pouvoir le modifier, distribuer des copies. Et puis pouvoir accéder au code. Voilà. Alors que l'open source, là, c'est une vision beaucoup plus commerciale, c'est-à-dire que en fait, le code est ouvert, point barre. Mais on peut il n'est pas nécessairement gratuit, on peut le vendre.
C'est ça, ça renvoie au Creative Commons. Tu peux avoir différentes façons d'utiliser l'open source, c'est-à-dire que tu peux faire des choses. Il y a des licences qui ont été créées pour pouvoir ajuster. Et par exemple, Wikipédia a un code sur lequel j'avais mis. Tu utilises ces briques, donc Wikipédia, tu peux copier. tu peux modifier, sous Wikipédia, tu vas sur un article, etc. Tu peux l'utiliser à des fins commerciales et tu es obligé, si tu utilises des trucs de Wikipédia, de respecter les trois impératifs précédents. Mais tu peux aussi dire, voilà, par exemple, j'imagine un objet ou un logiciel, je mets sous une telle rubrique que les gens peuvent regarder comment c'est fait, ils peuvent l'utiliser, mais surtout pas pour l'utiliser à des fins commerciales. Tu comprends ? Donc tu peux jouer sur cet ensemble de choses. Et donc, alors c'est très compliqué parce qu'il y a des pages entières, parce qu'y compris après, à la fin, eux-mêmes, Raymond et Stallman disent finalement ce qui nous oppose, c'est pas tant des choses techniques qu'une philosophie du monde. Donc la question n'est pas simple. Hein. La question est pas simple. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là si ça ne vous ennuie pas. Bon, pour dire aussi, je voulais dire aussi qu'à Noisebridge, il y a une liste qui circule et dans laquelle, grâce à laquelle les gens peuvent trouver aussi du boulot. Hein, parce que les hackers qui ont un boulot dans la Silicon Valley ou ailleurs, dès qu'il y a un poste dans la boîte, ils utilisent la liste de Noisebridge pour pouvoir, pouvoir dire que ce n'est pas simplement une opposition marchand-non marchand, ce n'est pas simplement des espaces gratuits. Hein. Il y a une articulation entre le marchand et le non-marchand.
Le logiciel libre, c'est essentiellement dans les hackerspaces et dans les
papiers. Ah non, 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 non. Non, non.
Le logiciel libre, on le trouve partout, même. Même IBM maintenant passe.
Regarde-toi, j'ai mis le Apache, là, qui est un logiciel libre, qui est utilisé bien plus que Microsoft par les grosses boîtes.
Non, mais c'est utilisé. J'ai Ubuntu, mais dire par là, les programmes, ça se fait plutôt dans les.
Non, parce que tu as des systèmes de contribution par exemple, SPI, par exemple, qui est une communauté de développeurs, c'est une communauté complètement déréalisée, si j'ose dire, qui n'est pas physiquement rassemblée. Donc, des gens travaillent chez eux comme ça, quoi.
Si je peux juste un exemple, c'est Firefox, le navigateur internet. C'est 37% de code géré par des bénévoles et qui sont à titre individuel, ils ne sont pas rassemblés dans un entreprise. Voilà, sur 1000 employés. Et les 37%, c'est plusieurs milliers de gens qui vont faire une ligne de code parce qu'ils ont vu un bug ou ils vont raccourcir le code pour le rendre plus beau, enfin, choses comme ça qui sont dans l'éthique du code.
Code.
Le code du logiciel.
Du
logiciel Firefox.
Ah oui, d'accord.
Qui ensuite est validé par la marque, enfin la fondation Mozilla, qui est une marque, mais. Donc il y a un tiers du code de Firefox qui est géré bénévolement, quoi. Écrit bénévolement.
Je finis juste et je vous donne la parole. C'est parce que j'ai juste deux slides.
C'est juste pour préciser.
Non, mais t'as bien fait. Pour dire que j'ai raconté tout ça dans ce bouquin, mais là, j'ai pas. Qui est en vente, comme Yann l'a dit. Et quand je suis rentré des États-Unis, j'étais dans le métro et j'ai pris la ligne Mairie des Lilas. Et à mon agréable surprise, il y avait quelqu'un qui avait mis Utopie derrière. Et je trouvais que ça collait assez bien avec. Voilà. Je voulais finir là-dessus. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon, il est déjà 7 heures. Merci.